Vous écoutez
RMC.
RMC, Estelle Midi.
Les immanquables.
Et on commence les immanquables avec la première du jour, Martin.
Jamais un ministre en exercice n'avait été renvoyé devant la Cour de justice de la République. Et bien le premier, c'est Éric Dupond-Moretti, actuel ministre de la Justice, renvoyé devant la Cour de justice de la République pour prise illégale d'intérêt. Il avait profité d'être ministre pour ordonner notamment des enquêtes administratives sur des magistrats. En tout cas, il est suspecté d'avoir profité de ce poste-là, des magistrats avec qui il avait été en conflit quand il était avocat. Éric Dupond-Moretti risque 5 ans de prison, 500 000 euros d'amende. Il ne compte pas démissionner, ses avocats ont annoncé un pourvoi en cassation.
Alors, il ne compte pas démissionner, Jérôme Lavrieux, mais est-ce qu'il doit faire?
Je ne sais pas pourquoi, j'étais sûr que vous alliez vous tourner vers moi.
Moi, je peux me tourner vers quelqu'un d'autre, mais c'est marrant, je sens que ça vous intéresse.
Moi, je pense qu'il ne faut pas qu'il démissionne. Il va jusqu'au bout de ses droits à lui. Il se pourvoit en cassation pour vérifier que la décision est bonne ou pas. On attendra de voir à ce moment-là. Et puis, il peut très bien qu'il soit innocenté. Hein, on ne parle pas de... C'est pas l'affaire du siècle. Hein.
Non, mais enfin, il risque quand même 5 ans de prison et 500 000 euros d'amende. Oui, on ne parle pas non plus de quelqu'un qui a volé une pomme chez l'épicier. Hein.
Oui, mais c'est assez théorique quand même. Moi, je pense qu'il y a eu quand même un problème dès le départ. C'est une espèce de refus par certains syndicats de la magistrature d'admettre le choix du ministre de la Justice. Oui. Oui. Parce qu'ils étaient depuis des siècles dans la cogestion, c'est quasiment un comité de sélection qui nous choisissait le ministre qui leur convenait. Résultat des courses, la justice bougeait pas trop. Et ça leur a pas plu. Rappelez-vous du mur des cons.
Ah oui,
c'est assez bizarre, hein, le conflit d'intérêts. Le mur des cons avait affiché des tas d'élus, toute sensibilité politique, qui leur plaisaient pas. C'est les mêmes qui jugent les élus après. Est-ce qu'il y a un conflit d'intérêts ou pas? Pourtant là, ça a été classé sans suite. Problème.
Thierry Moreau, il est quand même dans une posture un peu délicate.
Je suis d'accord avec Jérôme, il faut qu'il aille jusqu'au bout de la procédure. Et encore une fois, c'est une peine maximale, donc il y a très peu de chances qu'on en arrive à cette condamnation, si tant est que la condamnation intervienne. Et je rappellerai une autre chose aussi, c'est que la cassation, c'est une procédure pour nos auditeurs qui ne juge que sur la forme. Est-ce que la procédure a bien été respectée? Mais pour le reste, effectivement, il est renvoyé sur le fond devant la Cour de justice de la République, qui est une procédure elle-même très très longue. Donc il va se passer de l'eau sous les ponts avant qu'une décision définitive soit prise.
Alors ce qui est sûr quand même, c'est qu'il y a plein de partis qui vont appeler à sa démission. Ça, on voit à peu près qui.
La France Insoumise, vous pensez?
Bah, j'imagine, ouais.
Moi,
quand
je
même.
Pense qu'ils ont des trucs à faire chez eux.
Oui, mais on en parlera après de l'affaire Quatennens. Mais ça risque d'être difficilement tenable.
Il y a quelque chose qui m'échappe.
Oui.
Une simple mise en examen vaut la démission d'un ministre. Jurisprudence ancienne qui a été appliquée systématiquement. Là, il est renvoyé devant la haute cour de la République, pour quand même une affaire qui ressemble à la prévarication, pour utiliser le terme précis, voilà, et il ne se met pas en retrait, il ne se met pas en retrait lui-même, en disant pour mieux me défendre, en plus il est ministre, justement, de l'institution dont il dépend, et par rapport
à qui... Il n'est pas jugé par celle-ci.
Enfin, peu importe, il est le patron, c'est-à-dire qu'il va s'auto-juger.
Il
est ministre de la Justice et il est confronté avec un problème de justice.
Non, il va pas être jugé
s'il
par les magistrats.
S'il y a quelqu'un qui doit démissionner de son poste, le temps de l'affaire,
tu démissionnes pas le temps de l'affaire, parce que si t'es innocenté, tu reviens jamais de toute façon.
Mais ça n'existe pas, ton truc. C'est juste une mise en examen et il démissionne quand même.
Non, ça n'existe plus, ça. Non, c'était une jurisprudence qui avait été instaurée par Balladur, un ministre mis en examen démissionne.
Et maintenant,
ça fait au moins trois mandats que ça n'existe plus.
Macron est contre.
C'est une décision du président qui peut demander
tout à
la démission.
Ça a été validé à un moment donné.
Il n'y a pas de texte de loi là-dessus.
Mais je
ne parle
pas de texte de loi. Je dis que moralement, c'est politiquement, ça a été validé par principe. Non. Et que là, comme ça n'arrange pas, mais en tout cas, quelqu'un qui est mis en examen, c'est un problème. Il le traîne et il le paye. Et là, quand on va directement le ministre de la Justice, enfin, de lui-même, il aurait dû dire.
Parce que la haute cour. La haute cour, c'est pour trahison, donc on va rester dans les
la Cour de justice de la République.
La Cour de justice de la République, c'est-à-dire qu'il va être jugé par des députés et des sénateurs.
D'accord.
Chose que Emmanuel Macron, comme François Hollande, comme Nicolas Sarkozy, avait promis de supprimer, parce que c'est dérogatoire à tout ce qui existe dans les autres pays démocratiques.
C'est la plus haute juridiction politique de la République quand on est jugé. C'est qu'on a fait quelque chose de grave.
Non, pas du tout.
C'est faux.
Pas du tout, ça n'a rien à voir. C'est que quand tu es soupçonné d'avoir commis quelque chose pendant que tu étais ministre.
Mais c'est gravissime.
Non.
Enfin, je suis soufflé de vous voir cette légèreté.
Ça se voit.
De lui-même, c'est un homme de loi, c'est un homme de droit. Oui. Il devrait dire parce que
Mais justement, il va jusqu'au bout. Il va jusqu'au bout de l'utilisation du droit. Il a raison de le faire. Et si lui, il fait pas, ça veut dire qu'on condamnera tout le monde rien que sur une simple mise en examen.
Mais je suis étonné d'entendre à peu près personne pour l'instant sur ce.
On pinaille sur les termes, alors que moralement, sur le plan politique, il devrait évidemment démissionner.
Mais bien sûr,
alors,
non.
Très bien.
Allez, on va rester dans les tribunaux.
La magistrature qui gagne.
Avec la plainte du jour.
Plainte déposée lundi dernier, le 26 septembre, par Céline Quatennens, l'ex-conjointe du député Adrien Quatennens. Les deux sont en instance de divorce. Plainte dont on ignore pour le moment les motifs. Adrien Quatennens, ce jour-là, le 26 septembre, était entendu en audition libre. Une plainte, donc, après deux mains courantes déposées par sa future ex-femme. La première pour une gifle, reconnue d'ailleurs par Adrien Quatennens. La seconde, le 24 septembre, pour avoir reçu de très nombreux textos de la part de son ancien mari. Pour rappel, une enquête pour violence conjugale a été ouverte par le parquet de Lille à l'encontre d'Adrien Quatennens.
Et ça se corse pour Adrien Quatennens, Cyril Moreau.
Moi, je pense que depuis qu'il a avoué, parce que c'est lui-même qui prend la parole pour dire... Un, qu'il a giflé sa femme. Deux, qu'il lui a supprimé son portable. Trois, qu'il lui a tordu le poignet. Je pense qu'il ne peut plus être député. Je pense que, à contrario de toutes les autres affaires dont on a parlé ici, Bayou, où les personnes se défendent, voire où il y a des non-lieux, où il y a des procédures en cours, où là on peut considérer effectivement que la présomption d'innocence soit nous protéger. Là, on a quelqu'un qui dit ce qu'il a fait et qui ensuite... continue à vouloir faire la loi. Alors, il se met en retrait, ce qui ne veut rien dire juridiquement.
Il était absent cet après-midi de la rentrée parlementaire. Il était absent cet après-midi à la rentrée parlementaire.
Alors, c'est encore pire que tout, parce que ça veut dire qu'il va quoi ? Rester cloîtré dans son bureau, ne pas voter les lois, laisser voter les autres. Enfin, c'est absolument ubuesque.
La justification qui a été donnée par Mathilde Panot, c'est qu'il gère son divorce.
Vaut mieux s'appeler du Pomerani avec
les gens, ils ont pas voté pour lui pour qu'il gère son divorce.
Non, mais voilà, enfin,
il est payé 8000 balles par mois pour gérer son divorce dans son bureau.
Il vaut mieux s'appeler du Pomerani avec vous. Parce que, justement. Alors d'abord, je comprends pas. Sa femme dit, j'ai fait une main courante, mais je ne veux pas que ce soit médiatisé, je veux pas que ça lui porte préjudice. Finalement. Quelqu'un a dû la convaincre, elle, d'aller peut-être plus loin.
Mais c'est peut-être elle-même.
Ou alors il y a eu d'autres choses.
Alors elle dit pas qu'à ce moment-là, elle voulait pas qu'il y ait préjudice. Lui dit, voilà, la vérité, c'est une des rares fois où j'ai vu quelqu'un dire tout de suite, voilà, j'ai eu des gestes malheureux. Il est comptable de son mandat de député devant le peuple français qu'il a élu. Donc tout ce qu'on peut lui demander, c'est de se représenter s'il veut. Voilà.
Quelqu'un qui a battu sa femme ne peut pas faire la loi.
En tout cas, il peut démissionner et se représenter et demander au peuple si le peuple accepte qu'il soit député ou pas.
Absolument.
Et s'il est réélu, qu'est-ce qui se passe ?
Eh bien, il revient.
Il est député. Et la gifle devient quoi ?
Non.
Donc, je pense qu'on a mélangé les genres. Ce qu'il a fait moralement impardonnable sur le plan humain, ça ne dévalorise pas son mandat de député de la nation.
Ah, bah alors, tout le monde est d'accord. Et moi, je vais vous dire une chose. Dès lors que vous avez, il faut rester sur les principes de droit. Dès lors que vous avez rentré dans le code pénal une peine qui n'existait pas avant, qui s'appelle l'inéligibilité, ça veut dire que seul le juge, au terme du processus judiciaire, peut dire celui-ci, il doit démissionner ou il n'a pas besoin qu'il démissionne. Il peut être condamné à une peine qui ne soit pas l'inéligibilité. Si vous rentrez ça dans le code pénal, il faut être logique jusqu'au bout. Seul le juge, au terme d'un processus judiciaire contradictoire et pas médiatique, pourra dire Monsieur Quatennens ne peut pas rester député.
C'est à lui de démissionner. Voilà. C'est à lui de démissionner parce qu'il a battu sa femme.
Si vous allez contre les principes du droit, toutes les associations
d'aide aux victimes vous expliquent que une gifle, c'est déjà trop tard.
Mais je suis d'accord.
Donc, il doit de lui-même démissionner et, comme le dit Estelle, se représenter devant les électeurs. Mais effectivement, juridiquement, rien ne l'empêche.
Donc, ça veut dire que le suffrage universel annulera la gifle s'il est réélu. Tu es d'accord ?
Est-ce qu'une gifle en scène de ménage vaut annulation de l'élection ?
Voilà, c'est ça que je veux savoir. C'est un délit, Perico. C'est pas une scène de ménage, c'est un délit. Est-ce que la loi prévoit que ça provoque
Comme vous n'êtes pas d'accord entre vous, c'est le juge qui le dira parce que c'est ce qui est marqué dans le code pénal.
Donc laissons la justice faire son travail et le suffrage universel trancher. Voilà. C'est pas à des comités spontanés.
C'est à lui de démissionner.
Excuse-moi, Perico.
Il n'en a pas l'obligation. Il peut le faire s'il veut.
Il n'a pas d'obligation.
Alors là où il doit démissionner, c'est que lui a prôné pendant toute sa carrière politique. À ce titre-là, je veux bien qu'il démissionne.
Et l'année dernière, il a même pris la parole à l'Assemblée où il y a 2 ans pour expliquer qu'une main courante devait automatiquement enclencher une enquête.
Là, il est confronté à sa propre déclaration.
Et tu n'es pas obligé de gifler ta femme pendant une scène de ménage, Péricolégas. Je suis désolé, tu dis une gifle dans une scène de ménage.
Personne ne justifie la gifle. C'est un fait qui s'est produit. Il s'en explique quelque part, il demande pardon, il explique ce qui s'est passé. C'est un geste par rapport à d'autres qui ont toujours nié, qui est quand même relativement respectable pour qu'on puisse comprendre qu'ils
sont... Quel geste respectable? Ah, le fait qu'il
est... Le fait d'avouer comme ça, clairement, ce que d'autres ne le font pas. Ça veut dire que même si vous avouez, vous êtes lynché, ben, ils avoueront plus. N'avouez plus. Puisque quand on avoue, ça sert à rien. Je comprends pas. Et je ne le défends pas. Et ce qu'il a fait est impardonnable.
Mais ça devrait l'absoudre. Mais quand on
avoue, alors que les autres n'avouent pas, ça mérite quand même un tout petit peu de considération. Ce mec n'est pas une ordure, n'est pas un salaud. Il a fait une erreur. Il a eu un geste tragique. Oui. Évidemment, il va le payer. Mais là, il a avoué. Ben, puisqu'il a avoué, il faut qu'il s'en aille. Eh ben, n'avouons plus.
Non,
c'est stupide comme réaction.
Non, mais Perico, sauf que sa femme, au départ, elle avait posé qu'une main courante. Là, elle a déposé plainte.
Alors, elle c'est dépose une pareil, main courante. Elle dit, je ne voulais pas que ça aille jusque-là. Et maintenant, elle porte plainte.
Mais qui, est-ce que c'est passé?
Je demande à comprendre tout ça.
Il s'est peut-être passé quelque chose.
Les juges pour ce qui est judiciaire et le peuple français pour ce qui est politique. C'est pas au comité Théodule à décider à la place des autres.
Mille fois d'accord avec Perico.
On va passer au tweet du jour.
Et on reste chez LFI puisque ce tweet est signé Daniel Obono, député LFI de Paris, qui en réaction à l'avenue de Sandrine Rousseau hier à la manifestation de soutien aux femmes iraniennes, on en parlait tout à l'heure. Ce matin, Daniel Obono dégaine donc son clavier et tweet « Bonjour à tous et à toutes, sauf aux gens qui instrumentalisent la lutte des femmes en Iran contre l'oppression pour insulter et disqualifier la lutte des femmes en France contre l'oppression. » Cela, mangez vos morts. Voilà ce qu'écrit la députée de Paris, Danielle Obono, sur Twitter ce matin.
Est-ce que ça vous choque, Thierry Moreau, ces mots?
Beaucoup. Après, plus rien ne m'étonne. Je suis pas surpris.
Bah moi, mais ça m'étonne. Excusez-moi.
Je trouve ça inacceptable. On en revient exactement au tout début de notre discussion, c'est-à-dire cette politique 2.0 en 246, où le but du jeu, c'est de faire parler de soi, où le but du jeu, c'est de parler comme qu'on parlerait à son pote de classe.
Non, mais personne ne parle comme ça. Enfin, excusez-moi.
Je connais
personne qui dit mange tes morts. Enfin, ça, c'est un truc, pardon, mais surtout pas les députés.
Il y a des gens qui parlent comme ça entre eux, mais je comprends même pas
ce que ça veut dire.
Je trouve ça inacceptable.
Hallucinant. Je comprends même pas ce qu'elle a voulu dire, tellement c'est hallucinant. Des trucs dans ma carrière politique, j'en ai vu. Des conneries, j'en ai dit beaucoup. Aussi, sans doute, trop. Mais alors, à ce stade-là, je suis perplexe de entendre « mange tes morts ». Si t'es pas d'accord avec moi, mange tes morts. C'est quoi l'argument de la polémique d'après?
Je sais pas.
Qu'est-ce qui va nous arriver après comme truc? T'es pas d'accord avec moi, mange tes morts. Enfin, on n'est même pas dans une cour d'école, on est dans quoi? Bah oui, surtout. Elle est députée.
J'ai une pensée émue
pour le général de Gaulle.
Pour un homme pour lequel j'ai beaucoup de respect politique malgré les divergences.
Qui imagine le général de Gaulle
en train de dire mange tes morts?
Vous n'êtes pas obligé de mettre tout ce que je dis en dérision.
C'était mieux avant, en attendant.
Non, je reprends pour les gens, les auditeurs qui voulaient écouter à la fin de ma phrase. Je pense à un homme pour lequel j'ai beaucoup de respect politique, malgré les divergences, qui est Jean-Luc Mélenchon, qui est un vrai, quelque part, un homme d'État. Comment il a pu s'entourer de ces gens-là? C'est quoi ces gens-là? Mais d'où ils sortent? Où est-ce qu'il les a trouvés? Tous.
Je ne vois pas Jean-Luc Mélenchon dire
non, attends. Ce petit état-major, cette petite clique de NUPES qu'au départ, nous disions.
Ça fait beaucoup quand même, hein.
Alors là, ça commence la collection. Je pense qu'il doit se retourner, pendant sa tombe, parce qu'il est encore vivant. Mais, il doit en train de demander, est-ce qu'il a fait le bon choix? Parce que tout d'un coup, les masques tombent, les voiles tombent, les chapeaux tombent, les dentiers tombent. Et maintenant, là, si mangez vos morts. Mais enfin, elle est députée de la nation.
Oui.
Ça vaut une gifle, hein.
Ce qui explique
Non, c'est une
gifle mentale.
Non, ah oui.
Ce qui explique la succession compliquée pour abonder dans ton propos.
Allez, on va terminer rapido avec la coupure du jour.
Oui, la coupure du jour, attention, ça va trancher, nous diraient les nuls. En tout cas, il y a un vrai risque de coupure de signal sur le réseau mobile cet hiver. C'est une alerte lancée par la Fédération Française des Télécoms. S'il y a un hiver rude, l'acheminement en électricité des 97 000 antennes 4G de France n'est pas garanti. Pour faire clair, on pourrait bien être privé de réseau 4G sur nos téléphones portables en cas de situation critique. Les coupures de courant pourraient durer jusqu'à 2 heures alors que les batteries de secours des antennes relais n'ont qu'une autonomie de 30 minutes.
Grande nouvelle pour rester le midi, on va enfin pouvoir se débarrasser de cette saloperie.
Du téléphone.
Si les auditeurs peuvent nous
aider. Là, vous allez voir qu'en disant aux gens qu'il risque d'y avoir des coupures de portable, là, tout le monde va éteindre sa box, sa cafetière, son four.
C'est l'argument, peut-être.
Faire des lessives à 3h du mat.
C'est peut-être
un très bon argument, Thierry Moreau. Vous ne trouvez pas?
Si, après, je pense qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Je pense qu'il n'y aura pas de coupure parce qu'ils vont se débrouiller pour qu'effectivement il y ait suffisamment d'acheminement en acheter de l'électricité à l'étranger. Alors, effectivement, il y a un risque si l'hiver est rude, si ça se prolonge.
Ça ne fait pas partie des équipements prioritaires.
Mais très clairement.
Pourquoi les téléphones portables?
Les antennes relais de téléphones portables ne font pas partie des équipements prioritaires à approvisionner en électricité.
Ah ben je crois que si.
Bah officiellement dans
officiellement,
les.
Officiellement non.
Bon, non y a quoi, administrativement non.
Alors, bon il y a les hôpitaux d'accord. Bon ok les hôpitaux.
Les gendarmeries, les casernes.
Ça sera juste vive ma vie de la diagonale du vide en France. Vous n'avez pas de relais, vous captez pas la 4G et dès que ça souffle un peu, la DSL tombe en rade pendant deux jours parce qu'il y a un poteau qui a pété la ligne téléphonique.
Il y a des villes j'ai moins envie de vivre. Vous voyez, c'est.
Ah oui ça s'appelle la diagonale du vide.
Oui je sais merci mais bon bah écoutez voilà.
Donc ça existe toujours en France hein.
Oui.
Dans les
équipements
prioritaires, Estelle, il y a les commissariats de police, les casernes de pompiers, les hôpitaux et certains complexes industriels sensibles.
Et l'armée, sans
doute. Bon, bah écoutez, je ne dis plus rien. Effectivement, mon téléphone portable passe après.
Okay, mes amis, vivement le
retour. Je sais m'incliner, vous savez.
Vivement le retour au Minitel. C'était quand même mieux avant. C'était formidable.
Mais enfin, il y avait quand même de l'électricité. Excusez-moi de vous le dire.
Trois fois rien.
Et puis dans un sac à dos, ça fait lourd.
Oui, ça c'est sûr.
Mais on reste à la maison, justement.